Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h30 sur Transistor, voici le journal radiophonique amplifié de ce jeudi 16 mars. Ce soir encore, notre équipe traque l'actualité dans sa profusion et sa diversité et part à l'écoute des bruits du monde qu'elle vous retransmet, mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Comme d'habitude, ces bruits seront politiques évidemment, les casseroles des trois candidats en tête des sondages n'en finissant plus de teinter derrière eux, mais aussi culturels ou scientifiques dans la deuxième partie de l'émission où vous entendrez entre autres échos des nouvelles de votre nez, du musée d'Orsay, des solitaires intempestifs chers à Raph ou encore du paysage radiophonique lyonnais. Mais pour l'instant, c'est l'heure du rappel des titres qui vous est présenté cette semaine par Mathias. Bonjour à toi Mathias.
Bonjour Rémi. Dans ce rappel des titres, nous revenons tout de suite sur l'événement de ce jeudi 16 mars. Une fusillade a éclaté dans le lycée Tocqueville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, aujourd'hui. Plus d'éléments à la suite de ce journal. Politique maintenant, c'était l'heure pour Benoît Hamon de présenter aujourd'hui son programme pour l'élection présidentielle que nous détaillerons en suite de ce journal. Politique toujours, Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'économie et candidat à l'élection présidentielle, rencontrait aujourd'hui la chancelière allemande Angela Merkel. Le candidat à l'élection présidentielle a déclaré avoir trouvé des convergences, je cite, avec Angela Merkel et a insisté sur la nécessité d'une, je cite encore, coopération renforcée avec l'Allemagne. Notons par ailleurs que la chancelière allemande n'a jusqu'alors rencontré qu'Emmanuel Macron et le candidat Les Républicains François Fillon. En parlant des Républicains, le parti politique a aujourd'hui mis en œuvre une procédure d'exclusion du sénateur de Lyon Jean-Baptiste Lemoine, ancien soutien d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre, et finalement rallié à Emmanuel Macron. C'est la première personnalité politique nationale de droite à rejoindre le candidat d'En Marche, seul selon lui à assurer une alternance crédible. Politique étrangère maintenant, les législatives aux Pays-Bas avaient lieu hier soir, et les résultats ont été dévoilés dans la matinée aujourd'hui, et donc j'y reviendrai bien sûr. Actualité étrangère toujours, la reine Elisabeth II a autorisé la loi visant à mettre en œuvre le Brexit par le gouvernement britannique dirigé par Theresa May, en activant l'article 50 du traité de Lisbonne. Si le Royal Assent n'est qu'une formalité, il lance officiellement la procédure de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui dispose de 2 ans pour négocier. En Grande-Bretagne toujours, l'IPSA, l'autorité de régulation parlementaire britannique, a décidé aujourd'hui de bannir l'emploi par des élus du Parlement de membres de leur famille. Reste à savoir si cette décision de l'IPSA sera entérinée par les députés eux-mêmes. Et c'est maintenant l'heure du focus. Nous commençons ce focus par un point sécurité. Comme je le rappelais dans le rappel des titres, une fusillade a éclaté dans le lycée Tocqueville de Grasse dans les Alpes-Maritimes et on compte 4 blessés. Un élève de 17 ans a été interpellé et a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'est rendue sur place. Notons par ailleurs qu'un colis piégé a explosé au bureau du FMI à Paris, rue d'Iéna. Une assistante de direction a été blessée. Le parquet antiterroriste a été saisi. En matière de sécurité toujours, le président François Hollande a exclu aujourd'hui toute sortie anticipée de l'état d'urgence. Le dispositif actuel doit être maintenu jusqu'au 14 juillet, comme prévu par la loi. Toujours concernant l'état d'urgence, le Conseil d'État a tranché. Oui, les assignations à résidence peuvent être prolongées au-delà de 12 mois, à condition que la personne constitue une menace grave à la sécurité publique et que l'administration ait été en mesure de fournir des éléments nouveaux ou complémentaires de nature à justifier cette prolongation. Benoît Hamon présentait aujourd'hui son programme pour l'élection présidentielle. Il s'agit d'une version remaniée du projet qu'il avait présenté lors de la campagne pour la primaire de la gauche. On y trouve bien sûr sa mesure phare, le revenu universel, qui s'adressera dans un premier temps à, je cite, « tous les travailleurs gagnant entre 0 et 2800 euros bruts ». Viennent ensuite la fameuse taxe robot qui servira à financer, je cite toujours, « un fonds de transition travail » et la légalisation du cannabis avec la mise en place de points de vente d'État afin de tarir le trafic. Il veut en plus expérimenter le récépissé du contrôle d'identité pour enrayer le contrôle au faciès et a de nouveau cité son 49.3 citoyen. Benoît Hamon veut aussi la mise en place d'un référendum sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Le candidat veut aussi élargir le droit aux allocations familiales dès le premier enfant. Et on notera enfin l'influence d'Arnaud Montebourg dans ce programme présidentiel. Le candidat du Parti Socialiste prévoit en effet des nationalisations temporaires éventuelles, la mise en place d'une politique de « made in France » et la taxation des super-profits banquiers. Benoît Hamon veut aussi réserver la moitié des marchés publics aux petites et moyennes entreprises françaises. Benoît Hamon joue la carte du rassemblement de sa famille politique après les nombreux départs socialistes vers Emmanuel Macron et l'annonce de Manuel Valls de ne pas parrainer le candidat socialiste. Le soutien affiché d'Arnaud Montebourg et de Vincent Peillon, dont il a repris certaines mesures, en est la preuve, comme celui de Najat Vallaud-Belkacem qui était présent avec lui hier à son meeting de Nice. Je reviens maintenant sur les législatives néerlandaises qui ont endigué la vague populiste. Après le dépouillement de la totalité des bureaux de vote, le parti pour la liberté de Geert Wilders n'arriverait qu'en deuxième position, avec 20 sièges sur les 150 que compte le Parlement néerlandais. Le parti de droite libérale, dirigé par l'actuel Premier ministre Mark Rutte, arrive en tête avec 33 sièges, moins qu'en 2012. On remarque la forte progression du parti écologiste de Jess Claver, qui passe de 4 à 14 députés, mais cette élection marque l'effondrement du parti travailliste, qui perd 29 sièges et passe de 38 à 9 députés après 5 ans de gouvernement avec le parti de droite. C'est un gouvernement de coalition qui se présage et qui regrouperait le parti de droite, les libéraux et les chrétiens démocrates. Et c'est tout pour le journal d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Mathias pour toutes ces nouvelles, pas toutes si excellentes que ça, et même concernant les Pays-Bas, on voit toute la presse se ravir ce matin, mais finalement c'est pas parce que ce n'est pas aussi grave que ce à quoi on s'attendait que ça n'est pas un petit peu inquiétant de voir les résultats de cette élection. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, non, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup, enfin, le Brexit plus Donald Trump, plus ça, on craint un peu pour nos fesses, disons, pour dans quelques semaines.
Je tiens à remarquer que le parti d'extrême droite n'a recueilli que 13% des voix aux Pays-Bas.
Le parti des blancs, comme il va falloir appeler l'extrême droite en Europe et dans le monde. Bref, sur cette remarque tout aussi pertinente que capillaire, nous allons en venir à la blonde de ce plateau.
Et oui, bah merci Ami.
Quelle belle introduction.
Quelle transition magnifique, j'approuve.
Marie, c'est à toi donc pour la revue de presse. Et bonsoir Marie.
Bonsoir Rémi.